Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Sardic vous donnera l'agenda de la semaine et nous parlerons tennis avec l'Open d'Australie qui a débuté cette nuit. Enfin, nous recevrons Anne-Sophie Barthé qui est skieuse toulousaine. Avec nous ce soir, la première d'Éric Dupri. Bonsoir Éric.
Bonsoir Jean.
Lucas Sardic, bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Messieurs, bonsoir.
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 Et bonsoir.
Bonsoir Éric Dupri, bienvenue dans Sportez-vous bien.
Merci de m'accueillir.
Bien accueilli par Lucas Sardic, par Timothée Rouvière. Damien Mazillier n'est pas là et Maxime Brossard n'est pas là. Maxime Brossard est excusé. Il s'est fait mal au genou, on va le dire à nos auditeurs. Il s'est fait mal au genou. Il est chez le docteur, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ?
À force de faire de la musculation et de se sculpter.
C'est sûr que nous, on
ne
risque pas d'avoir mal au genou.
Mais non, mais non, mais non. On préserve notre, voilà, nos articulations, alors que lui, effectivement, il pousse sur la fonte. Et voilà.
Et puis la blessure au genou, c'est très handicapant pour un homme de radio, je le rappelle.
Mais bien sûr, parce qu'il faut monter. Parce qu'il faut monter les escaliers.
Oui, exactement.
Voilà, donc forcément, Maxime Brossard est excusé. C'est vrai, c'est bien dommage.
C'est ça, une bonne résolution, vous en avez ? On parle, ça fait 15 jours qu'on est en 2019, il y a toujours les bonnes résolutions. C'est laquelle pour vous cette année, Lucas ?
Certainement pas de
faire du sport.
De réduire en tout cas ma consommation de friandises devant ce paquet de... Bon, on ne va pas la citer, mais de
bio chocolat
rissoufflé.
Avec un emballage rouge.
Fort bonne, donc certainement pas de réduire ma consommation de ce genre de petites gâteries, voilà.
Éric Dupri, quelle est votre résolution pour l'année 2019 ?
Pour se laisser à la gourmandise, il faut faire comme moi, il faut reprendre le sport. Donc ma résolution 2019, c'est de reprendre une activité sportive.
Et c'est pour ça qu'il intègre Sportez-vous bien, c'est bien ça.
Oui, enfin vous verrez quand vous aurez 50 ans, on en reparlera. Dans un quart de siècle, on en reparlera.
Ouais, j'ai plus 20 ans. Timothée Rouvière.
Moi, à défaut de reprendre le sport, moi je continue le sport. Donc on court tous les matins, voilà, tranquillement, vers la Garonne, sur le canal du Midi. Voilà.
Et comment tu fais pour pas t'ennuyer ? Moi, c'est ça ma question.
Mais
moi, pour courir, il faut un ballon. Il faut un ballon, une raquette
mais
de tennis.
Mais non, mais c'est contre le temps, c'est contre les éléments. C'est le long du canal, on est bercé par l'esprit du vent. C'est comme ça que ça marche.
Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ?
Moi, je suis comme Martin Fourcade. Contre le vent, contre le chrono, tout ça, ça ne marche pas. Il me faut quelqu'un à côté, tu vois. Il faut quelqu'un, de préférence handicapé, qui n'aille pas vite.
Non, mais Timothée fait du jogging contemplatif.
On est d'accord.
Il regarde.
Et les jolies joggeuses, évidemment. Ça,
toujours.
On le dit pas, ça.
Toujours. J'espère que vous êtes prêts, messieurs. On démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué cette semaine. Et cette semaine, on va dire que c'est un peu bizarre, parce qu'il y a un coup de cœur, c'est pour vous, Lucas Sardic. Il y a un coup, alors c'est pas français ce que je veux dire, je suis désolé. Il y a un coup de déception, entre guillemets, pour vous, Timothée Rouvière. Et il y a un coup d'hommage, j'ai envie de dire, pour Éric Dupri. On va commencer avec le coup de cœur. Pour vous, Lucas Sardic, on va parler de ski.
Oui, de ski alpin, en hommage à notre invité. Je vais essayer de rester dans le thème. Là, c'est pour saluer, pour moi, l'avènement de skieur de la future génération française, Clément Noël, qui a décroché son premier podium en Coupe du Monde ce week-end en slalom. Deuxième derrière l'intouchable Marcel Hirscher, comme toujours. Mais deuxième, voilà, le premier du reste, j'ai envie de dire. Il a seulement 21 ans. L'année dernière, il avait surpris tout le monde en décrochant la quatrième place au JO de Pyeongchang au slalom. La surprise générale, il avait gagné en même temps le championnat du monde junior avec presque 3 secondes d'avance sur le dauphin.
Ce qui est énorme, faut le préciser, c'est énorme à ce niveau-là.
Et là, il a 21 ans, il fait mieux que Jean-Baptiste Grange, qui est le dernier grand slalomeur français, double champion du monde, qui avait décroché son premier podium à 23 ans. Lui, il a seulement 21 ans, il avait un peu tourné autour au début de la saison, il avait fait une 4e place, une 7e place. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ce jeune-là qui incarne vraiment la nouvelle génération française, avec un jeune homme comme Thibaut Favreau aussi, qu'on a découvert cette année, qui a fini deuxième du géant parallèle d'Altabadia, si je dis pas de bêtises. L'équipe de France masculine technique continue de briller. Là, en plus, sur ce slalom, on a un espèce de tir groupé incroyable, avec Clément Noël deuxième, Peintureau quatrième, Muffage un des septièmes.
Les Français sont là, quoi.
Grange neuvième, Liseroux, le vieux de la vieille, j'ai envie de dire. Douzième. Non, voilà, ça fait plaisir. Et puis vivement la suite parce que lui, il va aller loin, je pense.
Timothée Rouvière.
Oui, ça fait plaisir de voir enfin une tête émerger de cette équipe de France de vitesse. On attend quand même
technique.
On attend quand même un successeur à Jean-Baptiste Grange qui a été double champion du monde en 2011 et 2015. Et voir ce petit Clément Noël de 21 ans. Et c'est moi, j'aimerais attirer votre attention sur Alexis Pinturo aussi, qui est à la base un géantiste. Et là, qui performe quand même depuis deux courses en slalom. C'est assez positif. On a les mondiaux qui arrivent en février.
La force de Pinturo, c'est qu'il est quand même capable de briller à peu près partout, sauf en descente. Et le slalom, le problème, c'est qu'il n'était pas très régulier. Alors quand il fait des perfs comme ça, et c'est vrai qu'il faut le souligner parce que c'est bien, c'est très bien.
Éric Dupri.
Et je trouve que la densité de l'équipe de France de slalom contraste sérieusement avec le creux de la vague qu'on constate chez les femmes dans ces disciplines.
Ouais, malheureusement.
On en parlera sans doute avec Anne-Sophie Barthet.
Bien sûr.
Parce que là, on ne voit pas trop arriver la relève.
Non, c'est vrai. C'est vrai que chez les femmes, à part Tessa Worley qui arrive, mais à part le géant, effectivement, elle ne concourt dans aucune autre discipline.
Gardez la main, Éric Dupri. On va parler avec pour vous. C'est un coup de cœur, mais un coup d'hommage, j'ai envie de dire. On a tous appris. On va parler de tennis. Le débat, ça va être le tennis et l'Open d'Australie. Mais on a appris cette semaine que Andy Murray devrait probablement arrêter sa carrière. Il s'est fait éliminer ce matin dès le premier tour. Contre un Espagnol. Voilà, c'est votre coup d'hommage, si je puis dire, ce soir.
Oui, il a été éliminé par un joueur quand même très solide actuellement, Bautista Agut, en 5-7, très serré. Bon, il a lâché vraiment au cinquième où il a perdu 6-2. Non, en fait, coup de cœur, pas tout à fait, pour une raison simple, c'est que ça n'a jamais été un joueur dont j'ai apprécié le jeu, Andy Murray. En revanche, il faut tout de même reconnaître que dans une époque où il y avait une adversité peut-être sans équivalent dans l'histoire du tennis,
avec Federer,
quand on
Nadal,
est de la génération Djokovic. Des Federer, Nadal et Djokovic, avoir gagné, et je vais rappeler son palmarès tout de même, deux victoires à Wimbledon, une victoire à l'US Open, cinq finales à l'Open d'Australie. Malheureusement, il n'a jamais pu en gagner une seule. Une finale à Roland-Garros, alors que moi, je n'aurais jamais parié sur
terre battue.
Voir un jour Murray arriver en finale d'un tournoi comme Roland-Garros. Et puis, deux victoires individuelles aux Jeux Olympiques, tout de même, deux médailles.
Et double champion olympique en titre.
Ce que n'a jamais fait Roger Federer, au passage.
Ni aucun autre, je crois que c'est le seul. Même Nadal n'a été qu'une fois champion olympique en individuel.
Mais Federer, jamais.
Et donc, une victoire au Masters et une Coupe Davis. Il a gagné quasiment à lui tout seul avec la Grande-Bretagne, un petit peu aidé par son frère en double. Numéro un mondial pendant quelques mois en 2016. D'ailleurs, je crois que c'est le seul qui a fait un intérim pendant la période Federer Nadal Djokovic. Je pense que ça méritait quand même un coup de chapeau, même si j'ai toujours trouvé que son jeu n'était pas très esthétique, pas très agréable à regarder.
C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai toujours eu une certaine... j'ai pas vraiment apprécié le joueur. Et je me suis rendu compte qu'il allait me manquer quand il a dit qu'il allait prendre sa retraite, parce qu'en fait, finalement,
on aimait le détester.
Ouais,
finalement.
C'est ça, c'est exactement ça. C'était un peu une tête, excusez-moi,
tête de turc, hein.
Non, j'allais dire une tête de con, mais voilà, pardon,
on peut,
le court, on a envie. Il nous énervait parce qu'en fait, il s'énervait souvent et on se rend compte aujourd'hui qu'il s'énervait contre lui, contre ses douleurs, peut-être, contre ce qu'il n'arrivait pas à faire. Et puis, il avait un jeu très, très, très embêtant. Il faisait déjouer ses adversaires et ça, c'était vraiment irritant quand on le regardait jouer.
Très fin,
voilà, finalement, il était peut-être plus malin que les autres. Et je pensais pas que ce serait lui dont le corps allait lâcher le premier, et finalement c'est le cas. C'est triste pour lui parce qu'il nous a émus cette semaine.
C'est quand même Timothée Rouvière terrible pour un sportif quel qu'il soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, on vient d'en parler, d'arrêter sa carrière prématurément, même s'il allait pas encore avoir 10 ans devant lui, mais d'arrêter prématurément sa carrière, c'est terrible pour un sportif.
Oui, comme le dit Lucas, en plus c'est une annonce qui choque un petit peu tout le monde. Les membres du Big Four, donc Djokovic, Nadal et Federer l'ont dit aussi, c'est que on savait qu'il était perturbé par son dos et des douleurs récurrentes. Mais on s'attendait pas à ce qu'il nous annonce comme ça qu'il arrête sa carrière. On sait que voilà, Federer, Djokovic et Nadal sont aussi passés par ces blessures, mais ils ont réussi à passer par dessus. Mais Murray, le corps, il a dit stop, donc on peut plus rien faire maintenant.
Federer, j'allais dire, c'est une exception parce que lui, il a un jeu qui sollicite très peu finalement son physique. Voilà, c'est pour ça que finalement il a une grosse longévité. Murray, c'était pas forcément le cas, mais bon, la hanche pour le tennisman, c'est terrible. Hein.
Apparemment, c'est le cartilage qui est touché, donc là, il y a pas grand chose à faire.
Parler d'une opération. Hein.
Oui, alors la suite, il a le choix parce qu'il voudrait quand même aller jusqu'à Wimbledon. Tout le monde comprendra pourquoi.
Pour terminer chez lui.
Voilà, pour terminer, évidemment, dans son jardin, pour faire un mauvais jeu de mots. Mais où il se repose pendant 4 mois et demi et reprend un peu pour la saison sur herbe. Ce qui est certain que ça ira mieux d'ici là grâce au repos. Ou alors il tente l'opération. Et là, c'est très
avec
aléatoire.
Des risques, oui, c'est ça.
Voilà, ouais. Est-ce qu'il sera rétabli suffisamment pour rejouer au tennis sans douleur ? Voilà, ça c'est l'inconnu, il va prendre la décision.
C'est qui tout double, tout simplement. Viennent,
voilà. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il a même du mal à marcher, je crois. Je crois quand il sort du cours.
Bah, c'est vrai que tout à l'heure, voilà, il s'est fait éliminer ce matin.
Déjà du mal. Déjà du cours, ça se voit qu'il. Voilà, c'est pas très souple tout ça.
On continuera de parler tennis dans le débat avec Djokovic et Federer. Timothée Rouvière, c'est le seul coup de gueule de la soirée, de la semaine. Coup de déception, c'est la défaite du Stade Toulousain qui, on va le dire honnêtement, n'a rien pu faire face aux Irlandais ce week-end en Coupe d'Europe.
Alors oui, c'est plus un coup de déception, c'est pas un coup de cœur, coup de gueule, je sais que vous aimez pas cette expression. Oui, une défaite 29-13 face au Leinster qui est quand même double champion d'Europe en titre. Les Toulousains qui tout simplement n'ont pas réussi à tenir tête à cette équipe. Donc moi je suis un petit peu déçu, moi je pense qu'il y avait un petit coup à faire. Les Irlandais se présentaient sans Dave Newtoner, sans Jonathan Sexton ou Rob Kearney. Toulouse restait sur une série de 12 victoires assez impressionnantes, et notamment une victoire contre le Leinster, double champion d'Europe en titre. Voilà, c'est vrai que c'est dommage, on a vu un match à très haute intensité durant les 30 premières minutes, ça a envoyé quand même.
Et les Irlandais ils ont tenu la mi-temps
après on a tellement été habitués à mieux, j'ai envie de dire, avec ce Stade Toulousain, ce jeu de main, jeu de Toulousain qui revient un petit peu à la mode, que là on a vu
ils ont été privés de ballon,
des joueurs qui ont subi dans les impacts. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, on a vu des joueurs pas forcément au niveau, d'autres qui ont manqué d'envie, mais voilà, de toute façon il n'y avait rien à faire, Leinster était plus fort, donc Toulouse qui perd la tête de la poule 1, qui l'abandonne au Leinster et qui devra battre Basse le week-end prochain pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale.
Ce sera à Ernest Vallon. Lucas, ok, le Leinster est inatteignable. Est-ce qu'on a vu les limites du Stade Toulousain ou ils sont vraiment tombés contre beaucoup plus fort?
On n'a pas vu les limites, on a juste vu la petite marge de progression qu'ils ont encore, parce qu'il ne faut pas oublier rapidement comme ça d'où on vient, où était le Stade Toulousain il y a 15 matchs en début de saison. Si on leur avait dit qu'ils seraient comme ça à la lutte dans la poule de la mort, en passe de se qualifier, parce que je rectifie un tout petit peu ce que vient de dire Timothée, s'ils gagnent, normalement ils sont qualifiés, puisque dans les autres poules il y a des matchs premier contre deuxième, bon bref, normalement ils seront qualifiés
dans le meilleur deuxième.
Voilà, ils seront qualifiés dans les meilleurs deuxièmes s'ils gagnent la semaine prochaine, voire la première place, on sait jamais, hein, parce que il faut aller gagner au Wasp. Non, c'est pas du tout. On a vu comme c'était difficile pour le Stade Toulousain d'aller gagner au Wasp. Oui. Le Leinster peut traiter. On verra. Bon bref, tout ça pour dire que non, le Stade Toulousain n'a pas beaucoup de lacunes. Ils ont une petite marge de progression encore. C'est normal. Perdre Leinster, enfin d'autres l'ont fait, vont le refaire. C'est quand même pas quelque chose de très étonnant.
Non, oui, juste que je veux dire, c'est que la dernière équipe qui a gagné au Leinster, je ne sais pas qui c'est, ça doit remonter quand même assez loin.
Ils ont depuis plus de deux ans.
Ils n'ont pas été ridicules non plus, ils ont bien tenu pendant la première mi-temps, c'est vrai.
Après, 50 minutes, pour moi ils ont tenu 50
voilà,
minutes,
ils
quand
ont
même
subi
pas mal,
pendant la dernière demi-heure. Bon, effectivement, ils ont leur destin entre leurs mains. Il suffit de gagner contre pas. Enfin, il suffit. Bon,
puis on n'a pas les mêmes.
J'ai jamais gagné d'avance. Mais...
Il faut rappeler aussi qu'on n'a pas les mêmes calendriers que les clubs anglais ou irlandais. Que les fêtes, c'était pas la même chose. Eux, ils ont charbonné, les Toulousains, pendant que ils ont un peu moins de matchs dans la saison, les Irlandais. Donc c'était prévisible quand même.
Bon, le seul inconvénient, c'est qu'on sait qu'ils ne joueront pas le quart à domicile. Ça, c'est la seule.
Normalement,
c'est la seule certitude qu'on a aujourd'hui.
Messieurs, pour finir là-dessus, on sait qu'une défaite, même pour un sportif de haut niveau, malgré un peu d'avance, ne fait jamais plaisir. Est-ce que cette défaite, finalement, ne peut pas faire du bien au Stade Toulousain? On a un exemple, c'est pas dans le même sport, c'est en 2009. Bordeaux, le football, a été champion de France en 2009, en prenant un 3-0 ici au Stadium. Et après, ils ont enchaîné 11 victoires de suite en remportant la Coupe le championnat de France de Ligue 1. Est-ce qu'une défaite ne fait pas de mal dans ce schéma-là, dans ce cas-là?
Moi, je pense que ça peut faire du bien. Donc, c'est vrai, ça casse une série de 12 victoires consécutives. Mais comme l'a dit le capitaine de Toulouse, Julien Marchand, cette défaite elle va faire du bien parce que ça montre que les Toulousains, comme l'a dit Lucas, peuvent progresser, peuvent travailler sur d'autres points et au moins ils prennent pas trop la confiance et c'est parfait pour la suite.
On verra la suite, on verra ce week-end. Le Stade Toulousain devrait normalement quand même se qualifier pour les quarts de finale. Reste à savoir en quelle position et s'ils vont recevoir ou non le quart de finale. Merci messieurs, on se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, c'est pour ça qu'on est fait. Santiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Aussi de moi, dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Thiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, Thiago. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Thiago, 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 Thiago.
C'était Kenji Girac sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé avec vous, Didier Rubio. Tout d'abord, bonjour.
Et bonjour.
Alors voilà, ça fait 15 jours, on le sait, qu'on est rentré en 2019. C'est souvent le moment de faire des bonnes résolutions. Justement, on va en parler de ça, les bonnes résolutions. Voilà, tout simplement, il faut faire attention à sa santé globalement. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est un peu en surpoids? Comment on fait?
Oui, du coup, cette période-là, effectivement, c'est une manière de se motiver plus facilement, on va dire, puisqu'on démarre un autre cycle, une autre année. Et de fait,
c'est le renouveau.
C'est le renouveau. Et donc, souvent, les bonnes résolutions concernent les pratiques qu'on pourrait avoir et que l'on pourrait déterminer comme étant pas très sanitaires. Par exemple, les gens qui fument, eh bien, le sevrage tabagique, souvent, c'est un moment où on a envie d'arrêter de fumer.
Il faut l'encourager.
Bah, il faut l'encourager forcément parce que, bah oui, on le sait, le tabac c'est une cause de mortalité qui arrive dans les premières causes, hein, faut le savoir. Et puis quand bien même, voilà, on pourrait aller plus loin, on a bien vu par exemple que le tabac raccourcit les télomères. Bon, je pourrais en parler une autre fois peut-être plus longuement, mais les télomères c'est simplement la fin des chromosomes. C'est-à-dire que c'est comme si on pouvait représenter ça comme des lacets. Et ce serait le bout des lacets. Et on s'est aperçu que donc le tabac raccourcissait un petit peu les télomères. Eh bien, c'est ça, c'est signe, on va dire, c'est un des premiers signes qui montrerait que la durée de vie est moins longue. Bon, voilà. C'est...
Donc il faut faire le sevrage tout
donc,
de suite.
Il y aurait un intérêt évidemment à arrêter de fumer dans ces bonnes résolutions pour les gens qui ont envie de faire ça, même si c'est pas facile évidemment. Hein. Ensuite, moi j'encourage la pratique des activités physiques. Ça, c'est,
si par exemple quelqu'un ne court pas, ne reste sur le canapé ou ne fait pas d'activité sportive, quelle qu'elle soit, comment
et
faire
voilà
pour ce début d'année?
Alors, moi, si je peux vous motiver comme ça, c'est que l'inactivité physique, la sédentarité, ça arrive quand même dans la quatrième cause de mortalité toute confondue. C'est-à-dire que il y a le tabac, on en a parlé. Il y a
peut-être les accidents.
Il y a l'hypertension artérielle. Mais derrière l'inactivité, on a beaucoup de choses. Hein. Donc ça veut dire que c'est considéré comme une activité à risque. C'est-à-dire, ne rien faire est une activité à risque.
Donc finalement, donc, on fait moi, une activité.
Exactement. Alors, pas forcément du sport, Jean, comme vous pouvez en parler dans la chronique tout le temps. Là. Mais une activité physique, c'est simplement, par exemple, dire, ben voilà, j'utilise moins les ascenseurs et j'utilise un peu plus l'escalier, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Je vais marcher peut-être 30 minutes en forêt ou au parc ou plusieurs fois dans la semaine. Ou bien tout, du vélo, enfin tout ce qui peut mettre le corps en activité, à l'inverse du canapé. Quoi. Voilà.
Et ce qui peut aider aussi finalement, c'est une bonne alimentation. Quel axe on peut viser pour une alimentation en 2019?
Donc là, avoir, l'idée c'est de regarder sa pratique. Par exemple, si la pratique est d'acheter des produits industrialisés, en assez grande quantité, c'est-à-dire chaque fois je fais mes courses dans un supermarché et je achète voilà des plats préparés, des plats où, avec beaucoup d'emballage, des produits sucrés ou bien des comment dire des oui des plats tout préparés fait, quoi, tout que, voilà. Donc l'idée c'est de dire est-ce que je prends un peu plus de temps pour préparer une alimentation plus saine, auquel cas ça fait acheter des produits plus bruts. Des fruits, des légumes, des féculents, un peu de viande. Du coup, ça fait changer les points d'achat. Donc ça, c'est important. J'ai l'habitude d'aller acheter faire mes courses au même endroit, à changer. Supermarché. Et voilà, l'idée, c'est de dire, je change et je regarde autour de chez moi ce qui existe. Je privilégie peut-être des circuits plus courts. Je vais peut-être parfois acheter de la nourriture biologique en fonction du budget ou autre. Et comme ça, j'avance vers une alimentation plus simple et plus saine.
Merci Didier Rubio.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdig, et comme d'habitude, on va parler rugby.
Mais je suis obligé, enfin.
Ça on va est obligé. C'est une obligation.
Ça va, on en a parlé tout à l'heure, ça va être encore le grand rendez-vous de ce week-end. Ce dimanche, à 16h15, tous à Ernest Vallon, hein, pour soutenir le Stade Toulousain, qui reçoit Basse pour le compte de la dernière journée du premier tour de la phase de groupe de Champions Cup. Voilà, on n'aurait pas été beaucoup à penser qu'ils pouvaient se qualifier, et là, ils ont vraiment toutes les cartes en main. S'ils gagnent contre Basse, normalement, ils seront qualifiés, ils seront au moins partie des meilleurs deuxièmes. Voilà, après la défaite au Leinster, ce serait vraiment sympa si Ernest Vallon pouvait rugir, comme ce fut le cas d'ailleurs contre le Leinster au match aller. Avec 17 points, ils ont les moyens de se qualifier, ce qui ne sera pas le cas de Castres malheureusement, qui joue samedi à 18h30 contre Gloucester. Eux, les Castres sont éliminés. Malheureusement, ils ont perdu à Exeter ce week-end et ils ne pourront pas se qualifier de toute façon. Voilà, ça les condamne. Mais bon, niveau français, on est pas mal. On suivra quand même avec un œil attentif de loin le déplacement de Montpellier à Édimbourg vendredi à 20h45, puisque si les Montpellierains gagnent, ils passeront premier de leur poule et ils seront qualifiés. Et Racing, le Racing 92 qui accueille les Scarlets, eux aussi ils sont en tête de leur poule, ils accueillent Scarlets qui est déjà éliminé, donc il y a moyen qu'ils se qualifient. Ce sera samedi à 16h15 en même temps que le Stade. Pas en même temps que le Stade Toulousain, c'est le lendemain. Donc il y a moyen qu'il y ait trois clubs français qualifiés
pour la quart de finale de la Coupe
d'Europe. Sur six engagés, ce qui serait pas mal pour la France. Un mot de Challenge Cup, on va parler très vite fait de la section paloise, n'est-ce pas?
Coraline, notre réalisatrice, elle est illuminée. Illuminée. Elle a entendu la section paloise, un sourire sur son visage.
Il ne faut pas, parce que elle-même sait que Pau a perdu ce week-end.
Oui, mais écoutez, on a déjà du mal à être sur le top 14.
Ils ne peuvent pas gérer les deux compétitions, c'est trop compliqué pour eux.
Voilà, c'est ça, Challenge Cup pour le compte de la cinquième journée. Donc Pau a perdu sur la pelouse du Stade français, 35-14. Pau est éliminé. Jouera samedi à 14h pour l'honneur sur sa pelouse face à Ospreys. La veille à 19h45, Agen aussi éliminé recevra l'Harley Queens. Défaite 38-24 ce week-end à Trévise en Italie pour les Agenais. Bon voilà, ça fait jamais spécialement
bon
plaisir.
Hein.
Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il y aura quand même Clermont et La Rochelle normalement de qualifier en Challenge Cup côté français. Un mot de Pro D de 18e journée. Il y a trois rencontres qui nous intéressent. Elles sont en même temps vendredi à 20h. Colomiers qui reçoit Mont-de-Marsan.
premier 15e qui a perdu ce week-end à Uyonnax, c'était prévisible, 32-16. Montauban qui reçoit dans le même temps donc Aurillac, Montauban 14e qui a perdu à Bayonne, le leader, 21-16 ce week-end. Et Carcassonne qui reçoit Vannes, c'est le 9e contre le 8e. Carcassonne qui a aussi perdu ce week-end à Béziers, 23-18. Donc voilà nos trois clubs un petit peu régionaux qui reçoivent ce week-end. Allez les encourager pour le compte de la 18e journée. Et on peut passer au foot.
On va passer au football avec le TFC.
Le TFC, évidemment, deux rencontres à suivre cette semaine. La première, ce sera mercredi à 19h, le match en retard de la 17e journée. Le TFC qui accueille l'Olympique Lyonnais, voilà, pour un match un petit peu de gala.
Pas de gala.
Et franchement, où le TFC a ses chances, puisque Lyon a vraiment du mal contre les équipes supposées, prétendument en tout cas inférieures à eux. Le TFC est 15e. Ils ont perdu ce week-end à domicile, malheureusement, face à Strasbourg. L'équipe en forme un petit peu de buts à 1. Et puis on peut écouter la réaction du coach toulousain Alain Casanova après la défaite ce week-end de ses joueurs.
Je respecte totalement la victoire de Strasbourg, mais je pense que ce soir on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, bien plus que nous mettre en difficulté. C'est nous-mêmes qui nous mettons en difficulté, en ne défendant pas suffisamment bien sur le peu de situations offensives qu'ils ont eues. Voilà, on savait que sur les coups de pied arrêtés, ils étaient dangereux. On a manqué un petit peu de rigueur sur ce corner. Et sur la situation du premier but, je pense qu'à la suite d'une ou deux glissades, on est en difficulté. Ce sont des situations qu'on doit bien mieux gérer si on veut faire un championnat de qualité. Il faut qu'on soit capable de beaucoup mieux défendre sur un plan individuel comme sur un plan collectif.
Alain Casanova, l'entraîneur du TFC, qui va jouer un deuxième match en fin de semaine. Ce sera pour le compte de la 21e journée, pardon, cette fois. Samedi à 20h, déplacement à Nîmes pour le derby occitan. Ça vous met en joie, ça.
Mais oui, toujours, toujours. L'équipe du papa, donc forcément, on suit avec une grande attention le Nîmes Olympique, des déplacements compliqués pour le TFC. Un petit mot de handball, de volley.
On peut parler du volley, effectivement, puisque les Spacers marchent toujours bien. Ils ont gagné 3-7-0 face à Chaumont le week-end dernier. Et là, ils se déplacent à Montpellier. Ce sera vendredi à 20h pour le compte de la 14e journée de volley.
Alors, le handball, on le sait, il joue ce soir contre la Corée unifiée en Coupe du Monde. Et un petit mot de hockey sur glace.
Un petit mot de hockey.
Belle performance.
Un gros mot de hockey sur glace, j'ai envie de dire. C'est vraiment dommage que Maxime Brossard ne soit pas avec nous ce soir, puisque les Belugas ont gagné contre le leader Clermont. C'était un petit peu le choc à domicile la semaine dernière. 9-1. Alors vraiment, je pense que c'était complètement
inattendu.
Imprévisible. Oui, c'était inattendu. Voilà, ça fait plaisir pour ces Belugas qui se déplacent samedi à 20h30 à Courchevel. Ça fait un petit peu loin pour aller les voir, certes. Mais voilà, c'est toujours bon à savoir, les Toulousains qui sont en forme.
Merci Lucas, on passe tout de suite au débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
On en a parlé tout à l'heure, cette nuit a débuté le premier grand chelem de tennis de la saison. L'Open d'Australie nous réserve toujours de gros et grands matchs avec l'élite du tennis mondial, l'élite dont font partie Roger Federer et Novak Djokovic. Prenant 11 des 13 derniers tournois, le Suisse de 37 ans et le Serbe numéro 1 mondial semblent être une nouvelle fois favoris cette année pour remporter ce grand chelem. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on ne répond que par oui et par non et on débat ensuite. Tout simplement, est-ce que Roger Federer va-t-il faire la passe de 3 comme l'avait fait justement Novak Djokovic entre 2011 et 2013, Lucas Cerdic.
Ah, j'aimerais bien.
Éric Dupri.
Oui.
Et Timothée Rouvière.
Oh non.
Éric Dupri, oui. Roger Federer a largement les capacités. Va-t-il le faire ?
Sur ses productions lors de la récente Open Cup, je pense effectivement qu'il a toutes les cartes en main pour faire la passe de 3. Cette surface de l'Open d'Australie, depuis qu'elle a été rendue un peu plus rapide il y a 2 ans, comme par hasard, lorsqu'il a gagné en 2017, alors qu'il n'avait pas gagné l'Open d'Australie, je crois, depuis 2010, lui convient parfaitement, convient à son jeu tel qu'il a fait évoluer ces 2 dernières années. Je l'ai vu très très en jambes pendant l'Open Cup. Il a gagné tous ses matchs en 2-7, il n'a jamais perdu son service, il n'a jamais été en danger, pourtant il a joué des joueurs très solides. Donc, compte tenu de l'état de forme des autres prétendants, notamment Novak Djokovic, qui n'a pas fait de très grands matchs lors de son tournoi de rentrée là, à Doha, je pense que
il a les
franchement, c'est celui qui aujourd'hui a toutes les cartes en main. Évidemment, l'a connu. Il a 37 ans. C'est s'il avait des matchs difficiles
en 5-7 sous
le soleil, parce qu'il fait toujours très chaud en Australie.
A commencer par le deuxième tour face à Gaël Monfils, peut-être.
Par exemple. Mais il n'a pas un tableau si facile que ça, contrairement à ce qu'on a dit. Il a Tsitsipas. Il a Cilic ou Kachanov en quart de finale. Non, c'est pas un tableau aussi facile que ça. Mais
pour moi, aujourd'hui, c'est celui qui me paraît le plus compact pour gagner ce tournoi.
Lucas Erdic.
Oui, oui, effectivement, si on s'en tient strictement à ce début de saison, c'est celui qui a montré le plus de choses, mais il ne faut pas oublier la fin de saison dernière, Novak Djokovic qui la termine en boulet de canon en gagnant Wimbledon et l'US Open.
Mais qu'il a mal démarré.
Oui, mais il a mal démarré là, mais en même temps, il a joué des matchs difficiles. Je suis sûr que là, à Doha, si c'était des matchs en 5-7, il aurait gagné le tournoi parce qu'il est tellement, prêt physiquement, voilà, tennistiquement parlant, peut-être qu'il a encore quelques lacunes, mais physiquement il est là. Effectivement, quand ça se deviendra compliqué, les matchs à rallonge, je pense qu'il sera toujours présent. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il va gagner, parce que effectivement, retrouver Roger Federer et Novak Djokovic en finale, ce qui serait une première d'ailleurs.
Ça serait fantastique.
Ce qui serait une première à l'Open d'Australie.
À l'Open d'Australie, ça serait une première.
Il faut bien se dire que. Alors, je vais un tout petit peu détailler la stat. 11 des 13 derniers Open d'Australie a été gagné par l'un des joueurs, même 12 des 15 derniers.
Oui, voilà. Ils sont à 6
partout. Et ils n'ont jamais fait de finale l'un contre l'autre. Ce serait beau de les voir en finale cette année. Et franchement, c'est bien parti pour. Et à partir de là, j'ai envie de dire que tout est possible. Ce sera pour moi du 50-50.
Je crois qu'ils n'ont pas rejoué de finale à Grand Chelem l'un contre l'autre depuis l'Open de l'US Open 2015.
Ah, la fameuse finale incroyable. Oui, je me souviens.
Mais Timothée Rouvière, vous, c'est non. Roger Federer ne va pas faire la passe de 3.
Moi, je vous trouve un peu optimiste, messieurs. Roger Federer, il ne faut pas oublier qu'il a 37 ans, qu'il revient d'une année un peu tronquée par les blessures. Et on est quand même sur un premier grand chelem de la saison. C'est un début de saison. Donc, même s'il a été performant en début d'année, on est face à un climat quand même qui est lourd. On est face à des gros adversaires. On en a parlé avec le tableau. Moi, je pense que un garçon comme Cilic et Tsitsipas, surtout qui le grec, là, qui
en 8e ou en quart, il peut jouer en 8e ou en quart.
Quelques années, là, je pense qu'il y a possibilité qu'il le sorte. Et surtout. Surtout moi, je vois pas un des trois gagner. Je vois pas ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic gagner cette année l'Open d'Australie. Moi, je préfère un joueur comme Cilic, comme Zverev, le jeune Allemand là qui monte bien, parce que
Zverev qui peut prendre Djokovic en demi-finale.
Voilà.
C'est vrai, il manque encore faut-il
qu'ils y arrivent.
C'est vrai, il manque encore beaucoup de références en Grand Chelem. Et tu parlais des conditions. Je tiens à signaler que celui qui supporte le plus mal la chaleur, c'est pas Federer.
C'est Djokovic qui a souvent dû arrêter les matchs.
Et de très loin, Federer, il a toujours aimé l'Australie. Toujours. C'est pas un hasard si quand il a repris sa série, de victoires en Grand Chelem, c'était à l'Australie. Il adore les débuts de saison parce que lui, il est toujours prêt. Toujours prêt.
Et surtout, si je peux me permettre, c'est qu'il n'a pas encore puisé dans ses réserves, ce qui est le cas lorsqu'il arrive à Wimbledon, Flushing Meadows.
Exactement.
Donc là, il est frais, il est super bien préparé. J'ai vu, il est très très en jambes. Bon, après, il faut voir l'enchaînement des matchs. Effectivement, je pense que Novak Djokovic, plus on va avancer dans le tournoi, plus il va être au point. Ça, c'est certain. S'il arrive en finale, il sera très très dur à battre, même par un Federer.
Encore plus s'il a des matchs accrochés.
Ouais. Le tableau est quand même, messieurs, beaucoup plus lourd pour Roger Federer que pour Novak Djokovic. On parle sur le papier, Timothée Rouvière.
Oui, le tableau est compliqué. Mon fils au troisième tour, ça va être compliqué déjà. Et après, avec des joueurs comme Nadal en demi-finale et Cilic ou Khachanov, moi je pense que ça va être des matchs à rallonge pour Roger Federer et le poids des années peut compter. Si on le compare au tableau de Djokovic, il va jouer des joueurs pas forcément connus. Donc éventuellement, il y a Goffin en huitième de finale. On a vu Goffin, il avait du mal.
Mais il faut pas oublier, on parle souvent entre guillemets, pardon, excusez-moi l'expression, de la chatte à Dédé. N'oubliez pas la chatte à Roger aussi, hein, parce que je vous assure que lui, il a l'art aussi. D'éviter un petit peu quand il a des gros tableaux, en fait, au final ils se font sortir avant.
Voilà,
les gros
ils peuvent
joueurs.
Se faire sortir avant d'arriver.
Exactement.
Lui,
et bon. je peux vous dire que ça lui a déjà souvent arrivé dans sa carrière. Lui, il loupe jamais les rendez-vous, mais les autres, ces pseudo-outsiders, eux, les manquent souvent.
Concernant Djokovic, quand même, je regarde son tableau théorique, je viens théorique, hein, comme vient de le rappeler Lucas. 16e de finale théorique contre Shapovalov, le Canadien. Qui peut être embêtant.
Et quand même à Nishikori en quart de finale.
Et Nishikori, effectivement. Goffin en huitième.
Ils aiment bien ces surfaces-là. Attention,
absolument. Hein. Goffin en huitième.
Le Belge.
Et Nishikori en quart. Donc,
Nishikori
qui est revenu très en forme, là, qui vient de gagner un tournoi, je ne sais plus, qui est Brisbane, je crois.
Exactement. Si je dois mettre une pièce sur un outsider, moi je la mets plus sur Nishikori d'ailleurs.
Oui, Zverev, pour l'instant, en tout cas, je n'y crois pas trop lors de ce tournoi. Je suis persuadé qu'il va gagner un grand chelem un jour.
Bien sûr.
Mais je ne suis pas certain que ce sera en Australie.
Un petit mot sur. On parle de Djokovic, on parle de Federer, on a parlé de Murray. Il manque Raphaël Nadal. On va juste parler un petit peu de Raphaël Nadal. Où se situe-t-il sur ce début de saison? Est-ce que on peut parler, voilà, justement, est-ce que c'est impossible pour.
C'est impossible à dire.
Il revient de blessure. On ne sait pas trop dans quel état il est. Est-ce qu'il est complètement guéri de sa blessure à la cuisse? Sur une surface aussi exigeante que celle de l'Open d'Australie, surface dure. Et depuis quelques temps, il a beaucoup de mal sur les surfaces dures, justement. Bon, moi, je suis assez sceptique sur sa capacité à aller au bout du tournoi. Moi aussi. Après, on va voir comment il a gagné son premier tour assez facilement, oui. Sans montrer, semble-t-il, de problèmes physiques.
Nadal, souvent, après des périodes de blessures, il est revenu très, très fort.
Oui, c'est ce qui fait jaser.
Oui, mais il est pas le seul. C'est aussi qu'il tire sur la corde quand même. Quand il est blessé, en général, c'est qu'il en peut plus, quoi. Vraiment, il est au bord.
Il a une grande résistance à la douleur, ça, c'est certain.
C'est hallucinant. Et quand il revient souvent très fort. Bon, là, peut-être pas au point
Je sais pas quel est son tableau théorique, je l'ai pas sous les yeux. Je crois qu'il est Anderson en quart,
il peut prendre Roger Federer justement
Anderson, c'est le genre de joueur qu'il adore jouer.
Il a deux mineurs, je crois, au troisième tour.
Attention à deux mineurs.
Ça va pas à domicile. Pas facile, hein.
D'ailleurs, il joue que des Australiens les premiers tours.
Donc, oui, c'est vrai.
Ça va être le test, je pense. Ce troisième tour a lieu, ça va être le test pour Nadal, sans doute.
On verra bien, messieurs, pour Rafael Nadal. Un petit mot pour Guillaume Dagneau. Les hasards de l'actualité nous ont amené à parler de tennis, alors que nous avons appris ce week-end une triste nouvelle. Guillaume Dagneau, le directeur sportif du club de tennis de Balma depuis 15 ans, est malheureusement décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il disputait un match sur les courts de la Ligue samedi après-midi. L'homme était très apprécié et respecté pour ses qualités humaines et ses compétences professionnelles. Guillaume Dagneau aura marqué tous les joueurs qu'il a rencontrés par l'attention bienveillante qu'il leur portait. Toute l'équipe, bien évidemment, de Sportez-vous bien s'associe à la peine de sa famille, à qui elle présente ses condoléances. Guillaume Dagneau avait 37 ans. Il va beaucoup manquer aux membres du tennis club de Balma et à tous les amoureux du tennis dans la région. Il fallait en parler, messieurs, ce soir. Donc voilà, on a une pensée pour lui et pour sa famille. On va reprendre le cours de l'émission avec notre invité tout de suite.
Portez-vous bien, l'invité.
Notre invité a participé aux 4 derniers Jeux Olympiques, membre de l'équipe de France de ski alpin, Anne-Sophie Barthet, originaire de Toulouse et double championne de France 2011 et 2016, avec même un podium en Coupe du Monde, on va en parler. Anne-Sophie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes actuellement en Italie après un joli week-end personnel où vous avez remporté 2 descentes à Tignes, c'est bien ça?
Oui, exactement, bien renseigné.
Donc voilà, c'est pour dans la continuité de la saison, c'est toujours bien de gagner, c'est bien ça.
Exactement, toute victoire est bonne à prendre et du coup moi j'ai attaqué sur les circuits un petit peu mineurs qui s'appellent la FIS et la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe est en antichambre de la Coupe du Monde et là j'ai pris la direction d'Italie pour participer à ma première Coupe du Monde.
Mais parce que Lucas
Cerdic.
Oui, bonjour Anne-Sophie. Vous faites une épreuve, vous êtes spécialiste du combiné, qui est une épreuve où il y a très très peu finalement de manches en Coupe du Monde.
Oui, en fait, sur les autres disciplines, moi j'étais plutôt polyvalente, donc j'ai attaqué par de la vitesse. Je me suis blessée il y a une dizaine d'années maintenant, et du coup j'ai voulu préserver mon capital santé en partant sur les disciplines techniques, donc le géant, le slalom. J'ai fait le principal de ma carrière dans ces deux disciplines, et je suis revenue sur mes premiers amours, la vitesse, en passant en fait sur le super combiné. Et je termine ma carrière afin que la boucle soit bouclée avec du super combiné et de la descente et du super G.
Voilà. Ah,
donc le super combiné, en fait, ça va être ma discipline phare sur les championnats du monde qui se dérouleront le 8 février en Suède. Mais je vais aussi quand même illustrer sur les deux disciplines de vitesse.
N'est-ce pas trop compliqué de faire plusieurs disciplines alors dans une même carrière? Ça apporte quand même beaucoup de. Il faut quand même beaucoup de qualité pour réussir ça.
Beaucoup de qualités, je sais pas. Moi, j'aime le ski dans sa globalité.
Il en faut quelques-unes.
Être spécialiste, c'est quelque chose qui m'ennuie, en fait, tout simplement. Mmh. Et j'aime le ski dans toute sa largeur. Donc explorer un peu toutes les disciplines, c'était une évidence pour moi. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment à cœur de faire les 5 disciplines et de remporter un gros globe. Et puis après, il y a eu une grosse blessure qui a fait que j'ai dû réviser un petit peu mes plans de carrière. Et donc voilà, mais je voulais quand même utiliser ces 5 longueurs de ski j'ai tout essayé, mais à différentes échéances.
Justement, pour nos auditeurs, il y a 5 disciplines différentes. Quelles sont les spécificités et laquelle vous avez préférée durant votre carrière à pratiquer?
Alors maintenant, il y en a six maintenant. Il y a une nouvelle discipline qui s'est créée. Et alors, il y a la descente. La descente, c'est la discipline où les gens, en fait, les skieurs, voilà. Alors, c'est pas tout à fait tout droit, parce que les gens, après, on a l'impression que c'est nickel.
Ce serait marrant si c'est risqué d'aller dans ça.
ouais, on dirait dans le pendu. Non, on dévale les pentes, on va dire, entre 100 et 140 km heure. Donc du coup forcément les pistes ont des formes et donc cela va engendrer des sauts et surtout des jets un petit peu dans les jambes à partir du moment où on doit tourner à une certaine vitesse.
Et des ligaments très torturés quoi.
Ouais, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de musculation, ouais. Pour que ça tienne. Et derrière, on va avoir le super géant qui est en fait un mix entre le géant, c'est-à-dire ce que les gens appellent communément la flèche dans les ESF, et la descente. Et donc c'est un grand géant où on varie, la vitesse varie entre 80 et 110 km/h.
Oui,
et ensuite, vous avez le géant, qui est la discipline de base un petit peu du ski alpin que tout le monde en fait pratique sur les pistes et il faudrait juste qu'on leur mette des portes et qu'ils aient à passer dedans, et le slalom où les portes sont entre 9 et 11 mètres et qui est un ski qui demande un ski très instinctif et beaucoup moins sensitif.
Quelle est votre préférence justement sur cette discipline, là où vous avez pris entre guillemets, hein, on prend du plaisir sur toutes les disciplines je l'imagine, mais là où vous en avez pris le plus?
Ben moi, c'est pour ça que j'adore le super combiné, en fait. C'est parce que dans une même journée, on va avoir une manche de descente et une manche de slalom. Donc, les deux extrêmes, avec la descente qui requiert beaucoup de concentration, beaucoup d'adrénaline, un petit peu de peur aussi, et qui demande une concentration sur soi-même et sur ce qu'on ressent, sur ce que nos pieds nous donnent comme information. Et le slalom, qui est complètement différent, où en gros il faut complètement débrancher le cerveau et
c'est de l'instinct
et là dans ces cas-là on se dit advienne que pourra.
Lucas Serdic,
là concrètement pour les championnats du monde dont vous parliez tout à l'heure, vous avez dit que vous allez vous aligner sur les deux disciplines de vitesse et le super combiné, c'est bien ça?
Alors pour l'instant non, c'est super combiné, il faut que je valide, il y a des sélections, il n'y a que 4 filles qui partent en fait sur chaque discipline. Et donc là, en fait, Cortina, Garmisch et les compétitions qui vont, les Coupes du Monde qui vont se dérouler avant les championnats du monde vont faire office de sélection. Donc il faut être performante maintenant.
Et là, au niveau de l'équipe de France féminine française de vitesse, c'est sans vouloir être désagréable, mais il y a un petit peu de, enfin c'est le niveau,
c'est le creux de la vague.
Le niveau est pas au.
Ouais. En fait, c'est qu'on est entre deux générations un petit peu. Donc, il y a la génération des Marion Roland qui a été championne du monde de Marie-Marchand-Arvier, qui a eu plusieurs podiums en carrière, qui font partie à la retraite. Et du coup, il y avait un creux derrière et ce sont des plus jeunes qui sont en train d'arriver. Néanmoins, on a quand même, il y a quand même Tessa qui a quand même déjà fait des top 5 en Coupe du Monde de vitesse. Roman Miradoli qui a également fait des top 5 et qui pour l'instant depuis le début de saison n'a pas encore montré je pense le plein potentiel de ses capacités, tout comme Tiffany Gauthier qui en fait s'est blessée. Des problèmes du ski alpin, c'est que c'est un très très beau sport, qu'il procure des sensations uniques, mais qu'effectivement il y a des fois, malgré toute la préparation physique qu'on fait, et on en fait vraiment beaucoup et qui est très complète, on a quand même le facteur blessure qui rentre en compte et qui peut freiner certaines carrières.
Éric Dupri.
Oui, justement, puisque vous en parlez, je me posais une question, est-ce qu'il est possible de faire une carrière de skieur alpin de très très haut niveau sans connaître la blessure? Est-ce qu'il y a des exemples? Moi, j'en connais pas.
Moi non plus.
Ouais, là, comme ça,
tout est relatif. C'est-à-dire que pour un skieur, moi, je vois souvent dans les articles, il s'est grièvement blessé, il a eu un croisé. Bon, nous, c'est la base.
Ouais, voilà.
Tu sais que quand t'as un croisé, ça y est, t'es skieur. Voilà. Donc ça, c'est.
C'est un peu comme un boxeur.
J'allais dire la seule exception à laquelle je pense, mais bon, sa carrière est encore loin d'être terminée. Et non, Hirscher, il a eu des grosses blessures. Mais Alexis Pinturo, pour l'instant, on touche du bois pour lui. Il a pas eu de grosses blessures. En même temps, on me dit que c'est une bête physique, quoi. Que c'est quelqu'un de très impressionnant à ce niveau-là.
Alors, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, Marcel Hirscher et Alexis Pinturo ont eu exactement la même blessure.
Ah,
ils se sont fracturés en fait le péroné pour l'un, le péroné pour l'autre, le tibia.
Ah oui.
Et c'était des fractures qu'on peut dire mineures, dans le sens où il n'y a pas eu d'opération, il n'y a pas eu de vis, il n'y a pas eu de matériel.
D'accord.
C'est vrai que les deux, chez les garçons, il y a peut-être un petit peu plus de cas, sachant que on peut trouver des skieurs qui, en discipline technique, ont réussi à passer entre les gouttes.
Oui.
C'est vrai qu'on va pas lui porter la guigne ou quoi que ce soit. Je touche du bois en même temps que je vous parle.
Aussi notre table est en bois. Par exemple,
c'est jamais. Comment ?
Je dis nous aussi notre table est en bois, donc
touche du bois pour vous. Non, mais chez les filles, on a également Michaela Schifrin qui ne s'est jamais blessée.
Oui, mais alors en tout début.
Voilà, donc c'était vrai qu'il y a une certaine fougue qu'on a quand on est jeune et on se croit assez imbattable et incassable surtout. Et une fois qu'on s'est cassé, on réfléchit un petit peu plus dans certaines conditions.
Il y en a même que ça tétanise, comme Antoine Denaria, qui n'est jamais vraiment revenu à son niveau après.
Oui, là par contre, il y a beaucoup d'exemples effectivement. Ouais. Il y a Antoine, mais on peut aussi parler de Dalsin, on peut parler de pas mal de monde, surtout chez les descendeurs, parce qu'il y a une prise de risque qui est quand même énorme, et voilà, on est au départ et on sait qu'on joue quand même quelque chose, du moins on joue un peu notre santé, et donc si on n'aborde pas à 100% l'événement, ben on sait qu'on prend notre capital risque, en fait, augmente, quoi. Donc, il y a des moments où on a une vie aussi après le ski et il faut y penser aussi.
Vous l'avez dit, on le sait, vous êtes skieuse professionnelle, donc forcément, malheureusement, vous avez dû faire face à des blessures. Comment on réagit face aux premières blessures? Est-ce que ça forge un caractère encore plus important qu'avant?
La résilience. Non, c'est vrai que les blessures sont toutes différentes, je pense. La première, moi j'ai vraiment une grosse blessure dans le sens où j'ai luxé ma jambe. Quand vous avez les chirurgiens, du moins que vous avez déjà des barres de fer qui sortent de votre jambe et que les chirurgiens vous disent le ski c'est fini.
Aïe aïe.
C'est bizarre. Mais quand vous avez aussi 19 ans, vous avez envie de dire ce ne sont que des cons. Et du coup, prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Donc cette première blessure, c'est vrai que c'est un peu une découverte. En fait, c'est aussi une expérience. Et souvent, on le prend en tant que tel. La seconde, la troisième, la quatrième, c'est vrai que on commence à éprouver un petit peu de lassitude parce qu'on connaît en fait le chemin. Mais je pense que c'est aussi le propre du skieur, c'est que tu connais les risques de ton métier. Et que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Donc c'est vrai que je pense que si c'était un sport qui procurait moins de sensations, qui nous apportait un petit peu moins cette adrénaline, c'est un petit peu une drogue aussi. Et ce serait peut-être différent, mais c'est un très très beau sport.
Est-ce qu'on peut tirer un côté positif des blessures, justement? Vous veniez de dire que les médecins, les premiers chirurgiens vous ont dit le ski c'est terminé. Le fait de revenir, est-ce qu'il y a une envie encore plus importante qu'avant la blessure? Est-ce qu'on peut tirer un peu de positif d'une blessure ou pas?
On tire extrêmement de positif d'une blessure, tout simplement quand on arrive à revenir parmi les meilleurs mondiales. On sait aussi d'où on vient. Du moins d'où on revient. Et c'est quelque chose, on apprend à établir des objectifs intermédiaires. Quand on est plus jeune, on dit tout de suite je vais être champion du monde. Là, t'apprends en fait à te dire non, je vais pas tout de suite revenir sur les skis. Il va y avoir d'abord la phase en béquille, puis la phase je réapprends à marcher, la phase je réapprends à courir, la phase je réapprends à contracter mes muscles et à les coordonner. Il y a toutes ces phases-là en fait qui vont apprendre à être patient et à toujours rester sur un objectif global lointain, mais avec une espèce de méthode qu'on voit souvent dans les hashtags maintenant, le step by step,
et qui
je pense est très important aussi, par exemple dans l'entrepreneuriat.
Malgré les blessures, ça ne vous a pas empêché de participer quand même à 4 Jeux Olympiques, le premier à Turin en 2006, vous aviez 17 ans, c'est le plus grand souvenir de votre carrière, les Jeux Olympiques 2006, c'est les premiers.
Et ouais, alors non, pas du tout, c'était la catastrophe.
C'est vrai.
Tout simplement parce qu'à 17 ans, j'avais encore un gros ego et que pour moi, aller aux Jeux Olympiques, c'était que pour gagner la médaille. Et je savais que j'avais pas le niveau encore pour gagner la médaille et donc je voulais pas y aller. Voilà. Donc la tête à claque, c'était moi. Et pour finir, bien entendu que c'est un événement qui est magique pour tout athlète, pour tout Olympien, et que pour finir sur le site, j'en ai vraiment profité et que ça m'a servi ensuite pour les années à venir. Du moins, ça m'a servi, par exemple, pour une fois me blesser, me dire non, mais je veux refaire un départ des Jeux Olympiques. Et mais ce ne sera pas le plus grand moment de ma carrière.
Vous en avez fait 4, donc il y a Turin 2006, Vancouver 2010, tout simplement les 4 derniers avec Sochi 2014 et Pyeongchang en 2018. Sur les 4 Olympiades, laquelle vous a marqué le plus si vous devez en choisir une? Alors on a compris, ce n'est pas la première, ce n'est pas Turin 2006.
Peut-être que si finalement, même si c'était dans la déception.
Mais c'est laquelle?
Bon, alors celle qui m'a le plus marqué physiquement, c'est la dernière, hein, parce que c'est où je me blesse avant le départ.
Oui.
Mais je pense en émotion pure, je pense que Sochi était vraiment fort. Bon, j'ai qu'une 14e place, donc il y avait quand même de la frustration, parce que c'est vraiment des conditions, en fait, sur les 4 dernières Olympiades, on a eu des conditions de course.
Ah, c'est incroyable.
Difficile. Et ben en même temps, quand les gens prennent des Jeux Olympiques avec un climat océanique, on sait qu'on peut s'attendre à tout. Et effectivement, on s'est attendu à tout. Et c'est des conditions où, dans un temps normal, dans une course de Coupe du Monde, comme on les pratique tous les jours, on n'aurait jamais couru dans ces conditions-là. Mais vu que ce sont les Jeux Olympiques et la pression médiatique, on les court. Et donc, bah, c'est vrai que sur toutes les épreuves que j'ai faites aux Jeux Olympiques, j'en retire vraiment des sensations purement techniques, vraiment pourries.
Terrible. Oui.
Mais par contre, des émotions au départ qui sont vraiment très fortes parce que en fait, t'as 1 minute 30 pour t'exprimer et que ça se produit que tous les 4 ans, quoi.
Lucas Serdic.
Vous parliez tout à l'heure de votre fin de carrière. Visiblement, de ce que vous nous dites, vous êtes un petit peu dedans. Mais est-ce qu'il y aura des prochaines Olympiades?
Non.
Il n'y aura pas la passe de 5?
Non.
Ah non, lointain. Ça va être compliqué,
en fait,
oui.
Il y a plusieurs limites. Et souvent, chez le skieur, c'est le corps qui demande à s'arrêter. Et moi, j'ai ma partie droite qui a assez reçu. Je pense que c'est pas vraiment sur le ski en lui-même, c'est toute la préparation physique que ça implique. Et je sais pas si je pourrais repartir. Là, j'ai tout mis. Je fais mon all-in cette année, mais je sais pas si je pourrais repartir pour une prochaine saison.
Éric Dupri.
Oui, juste, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Concernant la relève dans l'équipe de France féminine de ski alpin, quelles sont les jeunes skieuses actuelles que vous voyez arriver peut-être au très haut niveau?
Alors, il y a toute une génération qui va arriver, mais pour l'instant, elles sont vraiment très jeunes. Elles sont 2001. Mais c'est un groupe où il y a une réelle émulation. Et de la même façon que nous sommes arrivés les 88 en Coupe du Monde, on était 8. Ça veut dire qu'on se connaît depuis très jeune et qu'on s'est tiré la bourre toute notre carrière. Maintenant, justement, bah, forcément, ça s'essaime au fur et à mesure que les filles prennent leur retraite. Mais je vois vraiment dans ces jeunes un réel dynamisme et l'envie vraiment d'aller croquer les meilleurs, de pas avoir peur en fait d'assumer la victoire, la gagne. Et je vois aussi qu'à l'entraînement, elle joue, c'est des petits trucs, mais elles vont jouer une tablette de chocolat, elles vont jouer n'importe quoi pour mettre quelque chose en valeur et gagner la manche.
On revient sur vous. Il y a les Jeux Olympiques, on en a parlé, mais en 2016, vous obtenez votre premier podium en Coupe du Monde. Est-ce finalement la finalité, un aboutissement, ce podium en Coupe du Monde?
Alors c'est un aboutissement dans le sens où voilà, j'ai pu mettre une croix et dire ok, dans ma carrière,
il y a eu podium, je l'ai fait,
où j'ai été dans les 3 meilleurs du monde. Et en soi, c'est quand même quelque chose dont on peut être fier. Et c'est pas une finalité parce que tout de suite, dès le lendemain, on repart sur de nouveaux objectifs et on a envie en fait de recréer un petit peu les émotions qu'on a eues à l'arrivée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où, par exemple, j'ai pu regarder mon papa dans les yeux qui ne voulait pas que je fasse de ski et lui dire, tu vois,
j'ai quand même réussi
à le faire, ce podium au Coupe du Monde. Et voilà, c'est aussi la possibilité à un moment donné de redonner un petit peu aux gens qui nous soutiennent chaque jour et de leur dire que cette victoire personnelle, elle n'est pas que personnelle, quoi.
Et justement, à titre personnel, je reviens sur ce que vous venez de dire, est-ce que ça comble aussi certains échecs dans le passé, dans la carrière, se dire bon, c'est bon, c'est oublié, maintenant j'ai ce podium et on n'en parle plus?
Ouais, alors ça, c'est, je pense que c'est l'une des grandes qualités des athlètes, c'est que on est capable de souffrir pour juste
un 20
très beau moment. Voilà. Ouais, c'est et ça, c'est des émotions, effectivement, que je garde gravées en moi. Cette année-là, ça a été, c'était une année qui était fantastique dans le sens où j'étais 40e mondial et que je termine 5e mondial en combiné, je termine 14e mondial en slalom. Et c'était un vrai projet avec mes coachs dont personne n'y croit. Enfin, très peu de monde y croyait. Et en fin de saison, quand tous les gens viennent te féliciter, eh ben, ça efface un petit peu tout ce que les naysayers, les médisants ont pu dire auparavant, quoi.
Lucas Sardic.
Oui, pour revenir sur votre dernière saison où vous avez mis all-in, comme vous avez dit, l'objectif, évidemment, ça va être un podium au championnat du monde, j'imagine. Ou est-ce que, dans quelle discipline vous pensez que vous allez avoir le plus de chance, le combiné toujours?
Bah, je me suis entraînée pour. Et là, j'avoue que sur le début de saison, c'est la première fois aussi où je fais une véritable préparation en vitesse. Et je m'amuse de plus en plus avec ces grands skis. Et j'ai de très bon feeling. Après, je vais pas m'avancer du tout sur une médaille en vitesse. Il va d'abord falloir justement faire du step by step et avancer sur les coupes du monde.
Et puis s'il y a Michaela Schifrin qui se met en plus à gagner en descente comme elle le fait cette saison, ça va être très compliqué pour l'or en tout cas. Ouais.
Elle est très très pénible.
Oui, elle gagne partout, c'est sûr que c'est pénible. Et elle gagne beaucoup.
Et elle ne se blesse pas.
Oui.
Du bois pour
elle.
Pour terminer, en 30 petites secondes, Anne-Sophie, quels sont les prochains rendez-vous, les prochains objectifs de la saison, de votre saison?
Là, ils sont, c'est un futur très proche. Du 7 au 20 janvier, je serai à Cortina d'Ampezzo pour justement deux descentes de Coupe du Monde et un Super G. Ensuite, il y aura Garmisch-Partenkirchen en Allemagne pour D'accord. encore descente et Super G. Ensuite, on aura la Russie. Et puis il y aura les championnats du monde en février à Auray.
Très bien. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. Au revoir, bonne soirée.
Au revoir, c'est déjà terminé. Merci à vous, merci à Coraline. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. À bientôt sur Radio Présence.